On a tous un souvenir relié à Disney, que ce soit par les voyages ou encore les personnages. On a une lecture vraiment magnifique à vous proposer aujourd'hui. C'est de Tristan Demers qui a accepté notre invitation. Bonjour Tristan.
Bonjour.
Créateur d'une soixantaine d'albums de BD, animateur jeunesse à la télé, auteur de plusieurs essais, de livres, documentaires. On s'était déjà parlé, Tristan Demers, lorsque vous aviez sorti Tintin et le Québec, Astérix oui. chez les Québécois. Mais cette fois-ci, là, vous vous attaquez à un gros monument à Walt Disney,
oui.
là, hein?
Oui, je vais être honnête avec vous, je n'étais pas certain de la pertinence de faire un livre comme ça parce que je croyais qu'il n'y aurait pas assez de matière pour en faire plus qu'un dépliant.
Ah,
et
oui?
Puis, à ma grande surprise, en fouinant, oui, parce que c'est mon éditeur qui m'a dit, écoute, il me semble que Disney a un... J'ai dit, oui, mais tu sais, on ne fera pas un livre avec des anecdotes, puis en disant à tout le monde qu'on aime Goofy et la Reine des Neiges, ça fait pas un beau... ça fait pas un récit, ça, pour autant. Bien, j'ai trouvé tellement de choses. Je me suis rendu compte que depuis près de 100 ans, Walt Disney nous a accompagnés dans notre construction sociale, mm-hmm. a favorisé le travail de nos artistes à Hollywood, a créé des débats sur la censure dans les années 30. En fait, il s'est passé tellement de choses que j'ai bien dû constater, admettre que j'avais ouvert des boîtes de Pandore dans les archives et que finalement, on se retrouve avec un bon 160 pages bien tassé.
Ah oui, avec de magnifiques illustrations, des photos, des archives. Ça a dû vous demander un travail quand même assez important, ce livre-là.
C'est un 2 ans et demi de boulot.
Ah, oui.
Moi, j'aime ça. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai une énergie qui est presque tête, je me pète la tête au plafond, un peu clown à mes heures, mais il y a un côté de moi que les gens connaissent moins, qui est justement celui plus zen, qui passe des journées entières avec des petits gants de coton à fouiner dans des vieilles archives nationales pour mettre à jour ou révéler des vieilles diapositives ou des témoignages d'une époque qui est complètement oubliée. Alors, moi, c'est mon rapport avec le devoir de mémoire qui est important. Je trouve qu'une archive, ça devient pertinent à partir du moment où ça sort de ses tiroirs pour raconter quelque chose. Et puis, quand ça se fait de façon ludique, parce que c'est via un personnage de bande dessinée ou un phénomène culturel populaire qui nous a enivrés, qui nous a accompagnés dans notre enfance, mm-hmm. parce qu'on est très nostalgique aussi, ben raison de plus pour mettre les bouchées doubles et fouiner davantage. Alors, finalement, je suis super content du résultat parce qu'on va dans toutes les directions avec ce livre-là. Ça ratisse assez large.
Ben
j'ai
oui.
gratté les fonds de tiroir.
Vous parlez de l'histoire de Walt Disney à ses débuts et tout ça. Qu'est-ce qui fait que, encore dans les années 2000, on est en 2024, Walt Disney fascine encore autant?
Oui. Ben, il y a le pouvoir de la marque, évidemment, qui est très puissant. Et évidemment, ils ont leur tentacule. Là, c'est un chiffre d'affaires de 55 milliards, je crois. Et en fait, ils nous prennent, et je le dis en avant-propos, ils nous prennent de la naissance à notre mort. C'est-à-dire qu'il y a moyen d'acheter des couches pour les bébés nourrissons qui viennent à peine de naître avec Mickey Mouse dessus, mais on peut aussi acheter une urne funéraire avec Goofy ou Mickey Mouse dessus. Ce qui fait qu'ils nous lâchent pas de la naissance jusqu'au décès. Ils nous accompagnent dans toutes les sphères, évidemment, ça. C'est une grande société qui a compris le moyen de, oui, de divertir, mais aussi de gagner beaucoup de sous. Hein? Il y a cet aspect-là, bien sûr, de la machine Disney. Mais moi, ce qui me fascine, c'est qu'ils ont réussi avec le temps et partout dans le monde à s'adapter aux réalités locales de chacune des communautés. C'est-à-dire que nous, bon, je parle du Québec, mais évidemment, ça déborde au Nouveau-Brunswick, d'ailleurs aussi. Les Franco-Canadiens se reconnaissent là-dedans, mais je veux dire, ils se sont adressés à nous en français via leurs émissions de télé, mais adaptées ou traduites aussi avec des comédiens de chez nous, canadiens, québécois. Ensuite, prenez la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. L'ONF a fait un deal, donc une entente avec Disney pour produire des dessins animés qui s'adressaient à nos soldats canadiens, où Donald Duck leur expliquait comment nettoyer les armes à feu pour combattre Hitler. On avait même des bateaux canadiens avec le dessin de Donald Duck sur la coque des bateaux de guerre qui partaient pour travailler avec les alliés en Europe. Donc, il y a cette espèce d'accompagnement à chacune des... que ça soit Disney Plus maintenant avec des plateformes web et tout... ou que ça soit il y a 100 ans d'accompagner nos soldats, mais il y avait là déjà une espèce de conscience de l'importance de séduire un marché qui est niché en lui parlant comme il veut qu'on lui parle pour se coller à notre réalité de consommation. À ce qui nous faisait vibrer aussi collectivement.
Incroyable. Là, lorsqu'on y pense là, dans la vie de tous les jours, il y a quelque chose qui est relié à Walt Disney. Ça ne peut pas faire autrement. Entre autres, moi, ce qui m'a surpris, c'est le fameux coq Hubert.
Oui. Ben oui, les rôtisseries Saint-Hubert, quelle surprise. Hein? Oui. Le coq a été créé par Jack Dunham, qui est un des bras droits de Walt Disney, qui avait travaillé sur Dumbo, Fantasia et Pinocchio. Ben, pour la simple raison qu'il fallait animer le coq dans le cadre d'une publicité. On avait déjà le coq qui était dans le logo, mais qui avait un monocle et un chapeau de forme, qui n'avait rien à voir avec le coq qu'on connaît des rôtisseries Saint-Hubert. Alors, la famille Léger a demandé à un dessinateur de Disney de concevoir le personnage pour le dessin animé où, c'est un dessin animé dans une pub en noir et blanc où Dominique Michel ouvrait une boîte de poulet et de frites, de sauce. Et il y a le coq qui en sortait en animation. Vous savez, dans ce temps-là, on n'avait pas l'expertise. C'est ça qui est fantastique. C'est que dans le fond, on se rend compte que jusqu'à la Révolution tranquille, on avait des sous, on rêvait énormément, surtout après la guerre, on avait les budgets pour ça. Oui. On n'avait pas l'expertise pour être capable de faire du dessin animé, des spectacles, de la mise en scène, du cirque, des tournées, de la musique. Parce qu'on sortait, au Québec du moins, de ces années qui plaisaient, des années plus conservatrices. Alors, c'est amusant parce que maintenant, je dis que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on a toute l'expertise pour être capable de produire tout ça, mais on rêve un peu moins et on a plus de scène.
Oui, mais on a été visionnaire du côté de Walt Disney. C'était incroyable. Oui. C'était incroyable.
Oui, Disney a même travaillé sur la conception de la Ronde, qui était le parc d'attractions de l'Expo 67. Alors, voyez-vous, maintenant, on demanderait à des gens qui ont une expertise qui viennent de chez nous, Québécois ou Canadiens, de travailler avec nous, alors qu'à l'époque, comme si on faisait pas du sous Disney, mais à chaque fois qu'on voulait divertir nos enfants, on disait appelle Disney, appelle des gens finalement de l'extérieur pour qu'ils nous organisent notre industrie du divertissement. Elle n'existait pas. Donc on demandait aux autres de nous l'arranger. On demandait à un Français de nous faire un stade olympique. On demandait à un Américain de nous organiser un parc d'attractions. Voyez-vous, on demandait tout le temps à l'extérieur. Ouais. Fait que c'est très typique d'une époque pré-révolution tranquille, on n'avait pas encore notre conscience collective pour être capable d'avancer là, puis d'assumer nos affaires.
Tristan, est-ce que Walt Disney est encore une référence?
Ben oui, parce qu'il y a tellement ratissé large. Écoutez, Marvel, c'est Walt Disney. Les Muppets, c'est Walt Disney. Star Wars, c'est Walt Disney. Walt Disney, le quart de leurs 55 milliards de chiffres d'affaires annuels provient des 6 parcs d'attractions dans le monde. Il y en a 6, hein. On pense toujours à celui de Floride, peut-être celui de Paris, mais il y en a en Californie, Tokyo, Taïwan, ou je ne sais trop, puis j'oublie, mais en fait, il y en a 3 en Asie. Bref, 6 parcs, c'est une industrie aussi. Ça a été le premier à proposer Walt Disney le principe de faire reposer le risque financier sur les épaules d'un licencié. C'est-à-dire que quand il a sorti Blanche-Neige d'ailleurs, qui a donné lieu à des débats sur la censure et même des descentes policières dans les cinémas au Québec en avril 1938, je le raconte dans le livre, mais j'ai perdu mon idée, j'étais pas... Il y a tellement large Disney que il y a des goofies qui pop dans ma tête, là. Il y a des Mickey Mouse qui apparaissent, là, j'ai perdu mon idée. En tout cas,
c'est tellement beau votre livre, ça nous rappelle de beaux souvenirs. J'invite les gens à se le procurer, Le Québec merveilleux de Walt Disney de Tristan Demers, 184 pages, $36.95. C'est aux éditions.
C'est un beau livre table à café. Un bel objet qu'on offre en cadeau, qu'on laisse traîner dans le salon, qu'on lit tranquillement. Vous avez 350 photos dans ce livre-là quand même. Alors, c'est un bel objet iconographique également. Ça a été tellement long d'avoir les droits des images.
Profitez-en,
ils ont coûté cher.
C'est aux éditions Urtubise. Tristan Demers, merci beaucoup. Je pense que vous êtes en route pour le Salon du livre de Rimouski.
De Rimouski, je pars dans 10 minutes.
Bon voyage.
Demain jusqu'à dimanche.
Et bon salon. Merci beaucoup,
merci
Tristan.
Merci à vous. Bye bye. Bonne journée.